Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Fabien Villeneuve de la ferme Villeneuve à Tosse. Fabien, comment allez-vous ? Très bien, ça va. On va faire une petite heure ensemble pour découvrir votre profession, un peu votre vie, ce que vous faites. Les agriculteurs sont des gens, comme tout le monde, et on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'ils sont. Et il y a un cœur derrière l'asperge, ne l'oublions pas. D'abord, on va écouter le Flash Info national et international. On se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour dans notre beau studio ensoleillé aujourd'hui de Tosse. Le temps est agréable et ça tombe bien. On a quelqu'un qui a une collection particulière avec le temps parce que ça fait un peu partie de son métier. Donc je rappelle, c'est Fabien Villeneuve de la ferme Villeneuve. En premier, est-ce que vous pouvez présenter votre ferme, son activité et les produits que vous faites ?
Eh bien, bon, voilà, moi, c'est Fabien. À la ferme, moi, je suis avec mon père, mon frère et ma mère. On a aussi 2 salariés. On est maraîcher et producteur d'asperges. Donc, c'est la saison, ça tombe bien. Voilà, on a un magasin de vente aussi sur Angresse, là où on vend nos produits qu'on cultive toute l'année. Voilà, on produit essentiellement de l'asperge et de la fraise, patates, tomates, haricots verts, courgettes, aubergines, poivrons, piments. Voilà, on est vraiment maraîcher depuis pas mal de temps maintenant, et c'est la 4e génération sur la ferme, donc c'est magnifique.
Alors justement, cette génération-là, ça a commencé à peu près quand ? Avec qui ? Arrière-grands-parents ?
Oui, arrière-grands-parents. Après, il y avait mes grands-parents qui, surtout ici bien sûr, qui produisaient pas mal de maïs, quelques légumes. Mmh. Ils avaient des vaches. C'était dans l'ancien temps, comme on dit, des générations différentes. Et ils ont permis d'acquérir pas mal de choses, ce qui a permis à mon père aussi, quand il est arrivé sur la ferme, de développer encore l'activité, d'amener un plus où ils ont agrandi les asperges. Et après, bien sûr, moi je suis arrivé avec mon frère. Mmh. Et là, on a développé pas mal de choses où on fait de la fraise, de la tomate. Voilà, mais chaque génération a amené un petit plus dans la ferme, ce qui permet de perdurer dans le temps. Et c'est ça qui est extraordinaire, je trouve.
Oui. Alors, vous faites ce qu'on appelle agriculture raisonnée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ?
Alors, raisonner, c'est-à-dire on n'est pas bio, on n'a pas le label, mais c'est tout comme. En fait, nous, sur nos légumes, on est sur, par exemple, la tomate, la fraise, tout ça, on est sur 0 pesticides. On travaille beaucoup avec de la matière organique, du fumier, avec des produits naturels comme le savon noir, le purin d'ortie. Mmh. On travaille comme ça et avec, par rapport au temps, le climat, on essaye de se débrouiller. On travaille aussi beaucoup avec les bourdons, les abeilles pour polliniser tout ce qui est fleurs pour permettre aux fruits de se développer. Mmh. Donc, c'est un peu nos meilleurs amis dans la saison.
Oui, c'est vrai.
Donc, en ce moment, en plus, il y a beaucoup, beaucoup d'abeilles de terre, des abeilles sauvages dans les serres. Et donc, c'est génial. Mmh. Elles permettent aux fraises de se développer correctement. Mmh. Et donc, c'est ça qui est génial.
Oui, alors, ce fameux purin d'ortie, là, parce qu'on en parle des fois dans les astuces jardinage, etc. Ça rapporte quoi, la terre de l'azote, du potassium
En fait, nous, on est plus sur le purin d'ortie. C'est un mélange, d'algues qui permet de lutter contre les ravageurs et aussi contre les maladies.
D'accord.
Donc, du coup, en fait, vous savez, c'est un peu comme une huile que vous mettez sur les plantes et qui permet d'empêcher soit les ravageurs, soit les maladies, suivant ce qu'on met, de se développer.
Et le savon noir aussi, parce que moi, le savon noir, je l'utilise à la maison, pour faire le ménage.
Exactement.
Voilà, mais donc vous pulvérisez une solution de savon noir sur les feuilles des plantes.
Exactement, on le fait à certains moments de la saison, ce qui permet, comme je dis, de lutter contre les maladies, comme l'odium, tout ça qui vient nous faire du mal un peu sur les fraisiers ou sur les tomates, surtout sur les courgettes. C'est ça qui est un peu plus difficile.
Oui, alors comme vous avez pris le parti de ne pas utiliser de pesticides, il faut que vous utilisiez des astuces. On va dire, alors je vais utiliser le mot de grand-mère. Ça veut dire, quand je dis ça, ça veut dire qu'en fait, que c'est ce qu'on connaissait avant, d'utiliser des produits chimiques qu'on achète en sac de 50 kilos.
Tout à fait, exactement. On a nos anciens qui s'en servaient énormément et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est eux qui avaient raison parce qu'ils se produisaient tout à la maison, leurs propres légumes, leurs propres ceci, leurs propres cela. Et du coup, on raconte aujourd'hui que ce qu'ils faisaient, et on le refait aujourd'hui et ça marche toujours.
Oui, c'est normal. Alors effectivement, c'est gentil d'être venu parce que
c'est un
plein. Vous êtes en plein boom. Hein, C'est la saison de l'asperge qui commence.
Exactement.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors bon, je précise aux auditeurs qu'il est venu à pied, hein, parce qu'il est vraiment juste à côté. C'est notre voisin, on peut le dire, vraiment.
Tout à fait,
on est voisins.
On est voisins.
Voilà, des fois, on se croise et tout. Voilà, c'est sympa. Et donc, du coup, ça semblait sous le sens de l'inviter, parce que voilà, on ne peut pas faire plus local que le voisin.
C'est pas faux.
Voilà. Et donc, alors, oui, il y a une évolution au cours du temps, donc de génération en génération. Les cultures ont évolué.
Oui.
Les techniques aussi, et la demande aussi, je suppose, des clients, des consommateurs.
Bien sûr.
Par contre, donc vraiment, on est dans le circuit court.
Oui.
Voilà. Donc ça veut dire que vous envoyez pas des camions d'asperges à Paris, à Rungis. Hein.
Si, Paris, vous envoyez quand même. Ouais. Les asperges, oui, parce qu'on est quand même, on a 30 hectares d'asperges.
Et oui, ah oui, il faut les caser.
Du coup, on travaille un peu avec Rungis. Je travaille aussi avec le marché de l'Homme à Lille, là-bas.
Oui.
Je travaille aussi avec sur Saint-Jean-de-Luz et les restaurateurs du coin, traiteurs, oui. Voilà, ouais. Avec qui je travaille. Donc, je vends beaucoup, énormément de mes produits mais sur le site en Grèce. Et par contre, et aussi au marché de Tosse.
Oui.
Voilà, où vous pouvez nous trouver aussi au marché de Tosse, où là vraiment. Le vendredi, où c'est vraiment du direct champ, parce que nous, notre priorité à la ferme, comme je dis, c'est de la terre à l'assiette, comme on dit.
Ben oui, oui.
Donc c'est la chance qu'on fait, ce métier grâce à ça, où on voit l'évolution de la plante, de la plantation jusqu'à l'arrivée dans les assiettes, soit des restaurateurs, soit des clients locaux, soit des vacanciers. Voilà, donc du coup, c'est ça qui est vraiment top.
Ouais. Alors, on parlait de maïs solaire, du maïs, vous en faites, vous en avez fait, vous en avez
fait
un petit peu.
Ouais.
Et donc, alors, c'est du maïs pour les animaux, pas pour l'alimentation.
On fait les deux. Non, pour les animaux, et on fait le maïs semence aussi, mais on fait pas le maïs qu'on mange, on fait pas.
Ouais, d'accord.
Le maïs doux, on fait pas.
Ouais. C'est-à-dire que souvent, c'est souvent ce qui se passe dans les Landes. J'ai l'impression que la plupart du maïs qui est cultivé, c'est du maïs qui est destiné aux volailles, je veux dire, globalement, j'imagine, la majorité. Et donc, oui, bon. Après, vous n'avez pas les mêmes contraintes qu'un éleveur. Vous faites pousser des plantes.
Tout à fait. Ah oui, je n'ai pas les mêmes contraintes, bien sûr.
Ouais, parce que c'est un autre métier, on va dire. Enfin, il y en a des fois qui font les deux, puisqu'ils font pousser le fourrage qui sert à nourrir.
Il y a 95% qui font les deux.
Ouais, parce que sinon.
Ils sortent leur propre maïs et tout ça, bien sûr.
Bien sûr, oui. Et donc, alors, qu'est-ce que vous avez comme formation? Parce que vous êtes né là-dedans. Le grand-père, le père.
Oui, tout à fait.
Voilà, bien sûr, sur le tas, vous avez forcément appris énormément au contact des anciens, forcément.
Moi, je dis toujours que mon père, c'est l'encyclopédie de l'agriculteur. Donc, c'est sûr que que ce soit mon grand-père, qui est plus là maintenant, mais ou mon père qui a une connaissance du territoire, de la terre, qui nous aide beaucoup, du coup, sur la plantation de légumes, tout ça, c'est vrai que. C'est top.
Et du coup, à un moment donné, alors, vous avez fait des études agricoles. Vous avez fait des études et où?
Moi, j'ai fait un BEP agricole à Werleuil. Fait un bac agricole à Mont. J'ai fait une première année aussi en BTS à Montardon. Et voilà, et après, je suis sorti de l'école. Et après, et je suis rentré dans le monde du travail après avec mon père, où je suis rentré salarié. Et après, au bout de quelques temps, on s'est associés. Et voilà, maintenant il est bientôt à la retraite, mais bon, il va encore continuer 10 ans de plus quand même. Il va pas partir comme ça.
Non, il va pas s'en sortir comme ça.
Non.
Est-ce qu'il y a justement une différence sensible sur l'approche du métier entre votre père et vous? Parce que le fait que vous ayez fait des études, lui a peut-être fait moins d'études, une ancienne génération, je ne sais pas s'il avait fait des études
il avait fait
moins poussées.
Il en avait fait, bien sûr. Bref, disons qu'une autre méthode de travailler, parce que les gens et le temps et l'évolution des machines aussi, tout évolue. Donc, mon père faisait, et ma mère faisaient peu moins de vente directe, ils faisaient que la vente directe à Tosse. Et avec eux, le fait d'avoir créé les serres et le magasin en Grèce, et faire le marché à Tosse aussi, on s'est ouvert à d'autres possibilités, on rencontre plus de gens, et on fait beaucoup plus de ventes directes qu'avant, bien sûr.
Oui, d'accord. Et est-ce qu'il y a aussi une part, entre guillemets, de technologie ou de science, c'est-à-dire l'évolution sur la connaissance des techniques de production, des êtres vivants, etc. Est-ce que, là aussi, ça vous a donné une plus-value, ou en fin de compte, c'est toujours la même chose, ça ne change pas grand-chose aux manières de voir les choses, de les faire?
La manière de produire, c'est toujours la même, parce que, comme je dis, nos anciens, il faut respecter ce qu'ils ont fait avant, parce que c'est eux qui nous ont fait tout appris. Et vu qu'ils connaissent très bien le territoire aussi, c'est plus facile maintenant de produire avec eux. Et alors, Il y a eu des changements sur les méthodes de travail parce que les variétés de fraises ou comme ça changent. Mais après, par contre, ça reste quand même la même chose. On ne peut pas dire que nos anciens, ils savaient faire pousser des légumes et nous, on prend la suite, en fait.
Voilà. Très bien. Mais comme ça, on peut les manger.
Exactement.
Bon, mais ça va être déjà le moment de faire notre première petite pause. On se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour avec Fabien. Alors, nous aussi, on veut du soleil parce que ça nous permet d'avoir des bons légumes. À un moment donné, il en faut un petit peu. Oui, alors, on va parler un peu plus de Fabien après. Mais là, on va avoir une petite question. Là, c'est les asperges. Voilà, on a beau être dans un coin d'asperges, on ne sait pas forcément exactement quel est le processus de création, de comment on cultive les asperges. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo, vous qui êtes un spécialiste?
Oui, bien sûr. Non, mais après les asperges, c'est tout simple. Vous voyez, c'est une turion qu'on plante, par exemple, là en ce moment. Et après, c'est une plante qu'on va garder 10 ans. Voilà, à peu près. Alors, vous pouvez garder moins ou plus. Mmh. Et la première année, vous ne ramassez pas d'asperges. Elle fait son feuillage dans l'été. Il faut qu'elle emmagasine des forces. Ensuite, au mois de novembre ou début décembre, quand il y a les premières gelées, on broie ce feuillage d'été, on la fait rentrer en dormance, ça ne bouge plus. Et après, au mois de janvier, on la réveille en préparant la terre, faire des buttes, mettre du plastique où ça permet de réchauffer la terre.
Oui.
Et là, on peut commencer à récolter après au niveau au mois de mars, avril, mai. Voilà.
Oui.
Et la première année, la deuxième année, on récolte pas beaucoup parce qu'il faut faire attention, c'est le départ, elle est jeune.
Il faut l'épuiser.
Voilà, faut pas l'épuiser. La troisième année, on est en demi-production. C'est-à-dire qu'on récolte, mais un petit peu aussi que la moitié de la saison. Et après, la quatrième année, mais là, on récolte en pleine production sur les 3 mois.
D'accord. Alors, c'est vrai qu'un des signes, là, quand on ne s'y connaît pas, on voit les champs et ces grandes buttes qui apparaissent. Et puis, ces grands rouleaux de plastique. Alors, il y a un côté blanc, un côté noir, non?
Alors, vous pouvez avoir du transparent aussi, qui permet de chauffer la terre un peu plus vite. Et après, vous avez un plastique noir et blanc, un côté noir, un côté blanc. Le côté noir permet de chauffer la butte, par exemple, quand il y a du soleil comme ça, où il ne fait pas trop chaud, c'est parfait. Et quand il commence à avoir des températures un peu trop élevées, là, on retourne le plastique pour mettre le côté blanc, pour justement éviter à cette asperge de se brûler et de jaunir un peu trop vite.
Alors, c'est quoi la différence entre, s'il y en a une, entre une asperge verte et une asperge blanche?
Une asperge verte, elle a vu un peu plus le soleil, c'est tout, elle verdit. Après, chaque personne a des goûts et des couleurs, vous savez, c'est comme chacun. Moi, je préfère l'asperge blanche, d'autres l'asperge verte. Moi, je produis un petit peu de verte aussi, mais pas beaucoup. Dans le coin, on est plus sur la tradition, c'est vraiment l'asperge blanche.
Il existe aussi, je crois, la violette, non? Il me semble, alors, des variétés, il y a d'autres variétés, peut-être qu'on trouve des fois en magasin, je ne sais pas
c'est
trop.
La couleur, la violette, c'est juste la pointe, la couleur de l'asperge qui change.
Ouais.
L'asperge est blanche, mais si elle a vu un peu plus le soleil que l'autre, elle va devenir un peu bleue, violette, rose. En fait, on appelle ça l'asperge violette.
Voilà. D'accord.
Mais après, le goût ne change pas entre l'asperge violette et l'asperge blanche. Toute blanche, le goût est le même.
D'accord. Très bien. Bon, voilà pour l'asperge. On a peut-être des idées recettes après. On ne sait pas. On verra. Du coup, c'est intéressant de savoir ce que c'est votre vie. Alors, comment ça s'est passé? C'est quoi était la difficulté vraiment de reprendre, puisque votre père n'a pas arrêté et vous n'avez pas pris attention. Vous avez plutôt fait un parcours parallèle.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Une transmission.
De reprendre, pour moi, c'était la suite logique. Après, il faut que la vie familiale s'adapte aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme compréhensive avec mes enfants. Mais ils sont beaucoup avec moi aussi. Ma femme bosse avec nous à la ferme de temps en temps aussi. Heureusement qu'elle est là, d'ailleurs, parce que c'est un peu l'épine... dorsale de la ferme qui gère tous les papiers, les commandes, les restaurateurs.
Internet un peu aussi peut-être.
Bien sûr, qui gère aussi les réseaux. Voilà, donc heureusement elle est top. Et vu qu'elle s'est engagée pas mal à la ferme, donc on bosse de temps en temps ensemble. C'est cool aussi de bosser avec sa femme. Ça a été un peu la suite logique de reprendre la ferme. Bon, et d'y vivre aussi. Je vis sur le site, donc ce qui permet aussi d'être... tout le temps là et de permettre de gérer un petit peu aussi les frigos, les chambres froides, les cultures. Donc, on y laisse beaucoup d'énergie, on y passe du temps, mais c'est quand même top de pouvoir perdurer dans le temps et de travailler en famille. On travaille en famille et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On est très soudés.
Ça, c'est une passion, c'est plus, un peu plus qu'un travail.
Moi, je suis amoureux de mon métier parce que de pouvoir produire et de vendre aussi à des clients locaux ou vacanciers ou professionnels. C'est ce qui fait un petit peu la gratitude de travailler, par exemple, de planter des fraises au mois de décembre, les récolter au mois d'avril et les vendre. C'est ce qui me plaît le plus dans mon métier, de voir l'évolution chaque mois, chaque semaine, de les bichonner pour pouvoir les retrouver dans nos assiettes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Ouais.
Et le contact aussi, alors dans la vente, le contact avec les acheteurs, les connaître un petit peu, parler avec eux, entendre leurs compliments.
Exactement. Moi, c'est ce que je préfère. Je travaille pas mal, par exemple, avec les restaurants Les Roseaux. Et du coup, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Et avoir un peu discuter avec les chefs, quels produits, comment, pourquoi. Et aujourd'hui, pourquoi on va partir, on va mettre ça à la carte. Et après aussi, les clients locaux, voilà, c'est le plus important pour moi. De les revoir chaque année, revenir au printemps pour les asperges. Et après, basculer sur la tomate, les courgettes. Donc, on discute avec eux, comment ça va. On discute un peu de tout, on discute de la ferme, on discute aussi de leur métier à eux. C'est un échange, en fait. C'est une vie... C'est une vie qui permet de pouvoir travailler les produits, mais aussi de discuter avec les clients. Et c'est ce que je trouve génial.
Il y a de l'humain aussi.
Oui, exactement. C'est très important dans notre métier. À la ferme Villeneuve, on sait accueillir les gens.
Très bien. C'est le moment de faire notre nouvelle pause. On va écouter notre flash info local concocté par mon excellentissime collègue Nicolas de l'antenne de Dax. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, nous voilà de retour. Vous avez vu l'heure, il est 12h36. Et on commençait à parler hors antenne un petit peu d'asperges, de cèpes et tout ça. Et ça y est, ça déclenche le... Voilà. On est dans le sud-ouest.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Et voilà, oui. Vous avez développé votre activité quand même relativement récemment avec ce point de vente en Grèce là. C'est quoi la réalisation dont vous êtes particulièrement fier depuis que vous avez pris la main un petit peu sur l'exploitation? Est-ce que c'est ce genre de choses?
Oui, après, il y a eu des étapes d'avoir amené les fraises aussi à la ferme. Les fraises de la ferme, c'est quelque chose qui était important pour nous. Et je pense que nos anciens le seraient aussi, parce que ça a été quand même une nouveauté. On n'en avait jamais fait à la ferme. Il y avait eu d'autres choses, bien sûr. Mais les fraises, c'était vraiment quelque chose de sympa. Et après, le magasin, ça faisait un petit moment qu'on en parlait en famille, avec mon père et tout ça. Et donc, du coup, d'avoir ouvert ce point de vente où les gens peuvent venir chercher tous nos produits que nous, on fait. Et aussi, des agriculteurs qui sont autour, qui peuvent amener leurs produits avec qui on travaille également. Et donc, ça, c'est des partenariats qu'on a avec eux. Donc, on peut retrouver plusieurs choses... dans le magasin, et les gens sont très très contents parce que on est ouvert de mars à octobre. D'ailleurs, là, ça rouvre mercredi le 12. Ça approche. Donc, c'est ouvert du lundi au samedi, et les gens peuvent venir quand ils veulent. Et c'est vrai que c'est quand même un peu la gratitude de pouvoir vendre ces produits nous-mêmes. Donc, c'est la chose sur laquelle je suis le plus fier, c'est ça.
D'accord. Alors, je suppose que là, en pleine saison, là, il y aura beaucoup de... Bon, toujours des locaux, des habitués, mais énormément de gens de passage, des touristes qui doivent venir, je suppose.
Et certains qu'on revoit chaque année, du coup.
Oui,
qui viennent des fois quand on a de la famille dans le coin, ou qui viennent passer du temps en vacances, parce que on a la chance quand même d'avoir l'océan pas très loin ici. C'est ce qui attire les gens. On est sur une route assez passante, donc les gens s'arrêtent. Des fois, on les revoit, ils viennent le week-end, ou alors ils viennent en vacances au mois d'août, par exemple, et on les revoit d'une année sur l'autre, et c'est sympa. Ils peuvent se ramener des produits chez eux, et c'est vrai que ça crée de belles discussions chaque année.
J'imagine, oui. Ah oui, alors on parlait tout à l'heure de cet aspect générationnel, de la transmission, comment dire, c'est un mode de vie qui a un petit peu disparu, le fait que plusieurs générations travaillent ensemble, vivent ensemble, c'est ce qu'on faisait avant. Mais c'est vrai que maintenant, un certain âge, souvent les gens ils vont dans un EHPAD ou je dis pas forcément pour critiquer la société, mais elle a changé en tout cas. C'est autrement. Souvent les agriculteurs, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est souvent justement très intergénérationnel, la manière de vivre et de travailler.
Oui, tout à fait. Là-dessus, nous, avec mes parents, par exemple, mon frère, on mange ensemble. D'entrée le matin, on boit le café, on travaille ensemble, on mange ensemble, on se voit tous les jours. Et en fait, c'est une routine qui s'installe. Le fait de se voir tout le temps, même les jours où on ne travaille pas, le dimanche ou comme ça, on se voit quand même. Et quand on ne se voit pas, on est quand même un peu malheureux parce que ça casse un peu la routine. Donc, c'est vrai que c'est important. Moi, quand je m'éloigne un peu de la ferme, je suis mm-hmm. toujours un peu plus malheureux.
Oui, ouais, je comprends bien. Ouais, c'est la famille. La famille.
Tout à fait.
Alors, en parlant de s'éloigner de la ferme, bon, vous trouvez du temps quand même pour prendre des vacances?
Ah, mais bien sûr, quand même, il en faut un petit peu. Oui. Avec ma femme et les enfants, passer une journée ensemble ou passer une semaine en vacances, partir un peu quelques jours, oui. C'est quand même, ça fait du bien aussi de couper. Et aussi, oui. Ça permet de voir autre chose parce que moi, ma femme s'intègre beaucoup dans la ferme, mm-hmm. elle fait beaucoup de choses, mais elle aime bien voyager aussi. Donc, du oui. coup, il faut arriver à trouver le juste milieu. Mm. Moi, je suis quand même un peu plus casanier à la ferme. Ouais, donc, oui. du coup, c'est vrai que de partir quelques jours, que ce soit à l'étranger ou même dans d'autres régions de France, c'est sympathique de partir ensemble en famille quand même.
Oui, ça permet de se ressourcer. Peut-être on revient avec peut-être un peu plus de niaque, de cœur au travail, parce que du coup, on s'est lavé un peu la tête et ça fait peut-être du bien, même si on est à fond dedans tout le temps.
Oui, c'est sûr que de revenir à la ferme, on est toujours content. Et en plus, ça permet aussi d'attaquer des fois les saisons avec un peu de repos avant. Et donc, ça, on met encore plus d'engagement les jours où on revient de vacances.
Oui.
Voilà, donc on est malheureux de partir de la ferme, mais on est content de la retrouver aussi. Donc, ouais, ouais. du coup, c'est vrai qu'en y passant tout notre temps, ça permet mais de pouvoir avoir un cercle familial où il faut trouver du temps aussi pour soi quand même.
Mm-hmm. Oui, alors on parlait aussi de la saisonnalité des choses. Bon, voilà, vous vivez forcément au rythme des saisons.
Oui.
Est-ce qu'il y a une saison haute ou une saison basse? L'hiver, c'est quand même une saison plus basse. On fait plus de plantation, de préparation. C'est quoi le job un peu?
Ouais, ben nous, on commence vraiment la saison à planter au mois de décembre par les fraises, qui enchaînent planter la patate en janvier et en février, les asperges à préparer en janvier et février. Après, on commence à récolter, c'est les asperges en premier, ensuite les fraises. Après, on a des plantations après toute l'année, parce qu'on commence à planter de la tomate la semaine prochaine.
Mmh.
Voilà, nous, la saison haute, on va dire qu'elle est vraiment... aller de mars à septembre, où le magasin est ouvert, et là où il faut récolter, planter, récolter, planter, récolter. Et après, le mois de novembre, c'est le mois le plus calme qu'on ait à la ferme.
Mmh, d'accord. Voilà, on parlait aussi tout à l'heure, des fois, il y a des, comment ça s'appelle, ces périodes des champs qui sont en jachère, avec des plantes qui poussent dessus.
Ah, ça c'est l'engrais vert, oui, bien sûr.
Oui, voilà, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines variétés qu'on découvre des fois que je n'avais jamais vues avant. On dit, tiens, c'est bizarre, c'est quoi dans ce champ? Et donc, vous appelez ça comment? Vous m'avez dit
La fèverole.
Oui, alors ça, c'est quoi comme plante? Ça vient d'où
La fèverole, c'est une plante qu'on a en France.
Hein. Ouais.
Nous, on s'en sert pour faire des rotations de culture, faire de l'engrais vert, mais ça peut être autre chose, ça dépend des années. Il y a des années où on met aussi de la moutarde, facélie. C'est quelque chose qui crée un peu un engrais organique naturel pour les cultures qui vont se mettre dessus après dans l'été ou dans le printemps.
Oui.
Et nous, dans les serres, par exemple, on met plus une espèce de radis noir, facélie, moutarde. Le radis permet de casser un petit peu le sol en profondeur.
D'accord.
Et la facélie moutarde, ça, quand on le détruit mécaniquement, ça crée un gaz qui fait fuir un petit peu les ravageurs internes qui viennent manger nos plantes.
Oui. Oui, c'est vrai que quand vous n'utilisez pas de pesticides, vous devez utiliser des méthodes.
Voilà.
Les plantes elles-mêmes, quand elles se décomposent ou quand on les broie, ça fait ou de l'engrais ou un pesticide naturel.
Voilà, un pesticide naturel. C'est un gaz qui fait partir un petit peu tout ce qui est vergris, nématodes du sol.
Oui, d'accord.
Voilà.
Et alors, les pitchouns?
Oui.
Il y a deux pitchouns.
Oui, tout à fait.
Donc,
Elia et Antoine.
Oui. Et des fois, un petit peu, ils se baladent dans la ferme.
Oui, j'ai...
Il faut les surveiller.
Antoine est encore un peu petit, il a 8 mois. Donc
oui, 8 mois, non, 8 mois, non.
Mais ma petite, oui, qui a 2 ans, elle est passionnée d'extérieur. Elle veut toujours aller dehors, soit sur le tracteur avec son papy ou avec son papa, se promener le soir dans les fraises, aller manger des fraises.
Alors ça, c'est le paradis, là.
Un petit peu comme nous, vous voyez, quand on va manger les cerisiers dans l'arbre.
Oui,
mais
oui.
Elle, c'est un peu... c'est son dessert, c'est aller manger des fraises en ce moment. C'est son nouveau truc, aller manger des fraises dans les serres.
Mmh. Et alors, est-ce que les asperges, elle aime ça ou pas?
Eh bien, l'autre jour, elle les mangeait crues.
Oui.
Donc, je pense que cuite, elle va les aimer, puisque crues, elle les aime.
Ah oui? Ah tiens.
Donc, elle aimait bien les croquer dedans.
Mmh.
Alors, du coup, elle aime ça, oui, bien sûr.
Ah, super, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont un peu difficiles au niveau des légumes.
Tout à fait.
Je connais pas mal d'ados qui ne doivent pas manger jamais d'asperges, en fait. Hein. C'est un goût particulier, on peut ne pas aimer. Bon.
Tout à fait, mais souvent c'est qu'en grandissant qu'on apprécie les asperges. Mm. C'est comme un petit peu le vin, vous voyez, c'est en grandissant.
Et oui, c'est ça. Le vin en vieillissant, et nous aussi en vieillissant, on s'apprécie mutuellement.
Exactement.
Voilà, l'un l'autre. Et oui, alors bon, on parlait de l'avenir, bien entendu, vous ne pouvez pas déjà imaginer qu'est-ce qui va se passer, mais c'est vrai que j'imagine cette transmission générationnelle, ce serait bien s'il y avait encore une génération de plus, après tout, sans vouloir les obliger.
Oui, tout à fait, voilà, les enfants, maintenant, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, avec bon, les études et tout ça, et après, je ne sais pas ce qu'ils feront les miens. Bien sûr que si un jour, eh bien, ils arrivent à mettre un pied dans la ferme, je serai le plus heureux, parce que ça va perdurer un petit peu dans le temps, ça va faire une génération de plus, et je me dis toujours que c'est important, parce que moi je dis qu'on fait toujours le plus beau métier du monde, donc après, est-ce que ça, ils le feront? Eh bien, écoutez, peut-être qu'ils finiront, ils partiront sur d'autres corps de métier, suivant les études qu'ils feront.
Bon, ça serait bien qu'il reste pour le garder sous la main quand même, sur la famille.
Voilà,
hein,
voilà, exactement.
Ça serait pas mal.
On va tout faire pour.
Allez. Bon, ben, ça va être le moment de notre dernière pause. On se retrouve ensuite après pour la dernière partie de notre émission. À très vite. Et voilà, c'est la dernière partie de notre émission. Bon, on a des petits trucs à reparler. Il paraît que vous avez une machine formidable dont je ne connaissais pas l'existence.
Oui. Tout à fait, là, au magasin en Grèce, on a notre petite nouveauté de l'année qui est une machine pour peler les asperges.
Ah, ça, c'est bien.
Donc, c'est vraiment incroyable parce que c'est vrai que moi, le beau premier, et ma femme, quand on rentre à la maison après le travail, on est content d'avoir les asperges pelées. On n'a plus qu'à les faire cuire et les manger, bien sûr. Mais oui, c'est une nouvelle machine qu'on a fait le choix de prendre cette année parce qu'on a quand même pas mal de professionnels qui nous demandaient des asperges, juste savoir si on pouvait les peler, même des clients aussi, bien sûr, locaux ou vacanciers qui se disent « Ah, si j'en prends un peu plus, ouais, mais bon, faut les peler, ceci, cela, mais là, au moins, c'est déjà fait. »
Ah ouais, mais ça, c'est... Alors, ça marche comment? Enfin, en gros...
C'est une machine, c'est des asperges qui passent une par une, ça peut faire du 105 kg à l'heure, donc ça débite.
Ouais.
Et en fait, après, c'est un choix. Si on vous les achetez d'un pelé, vous pouvez vous le faire. Soit on les pèle, on les passe une par une, c'est des petits économes... qui tournent sur eux-mêmes, si vous voulez, pour pouvoir permettre à l'asperge d'avancer, de tomber dans l'eau à l'autre bout.
D'accord,
Franchement, c'est à voir, il faut venir la voir, c'est quelque chose de chouette.
Bah, d'ailleurs, c'est le 12, hein, c'est ça, le 12 que ce point de vente...
Il réouvre, oui.
Voilà, et sinon, on peut aussi passer à la ferme Villeneuve, ici.
À Tosse le matin, oui.
Voilà.
Bon, il n'y a que les asperges et les fraises.
Voilà, mais, on peut acheter directement sur place. Voilà.
Après, les autres légumes sont directement à la ferme en Grèce.
Voilà, bah, c'est très bien. Et bien, oui, alors, dernière question, on n'a pas parlé, est-ce que... Vous avez des passions ou des hobbies en dehors de votre métier? Est-ce que vous faites, un peu du rugby, je crois?
Oui, voilà. Moi, je joue plus au rugby. Je suis à la retraite maintenant.
Oui,
mais,
c'est une passion.
Je suis passionné de rugby. J'aime bien regarder tout ce qui est matchs aux alentours ou à la télé. Après aussi, j'aime bien manger aussi. Donc, j'aime bien me faire des petits restos entre copains.
Ah,
ou avec ma femme et mes enfants, la famille, mes beaux-parents, mes parents. Donc oui, j'aime bien tout ce qui est les moments conviviaux aussi.
D'accord. C'est le moment de se séparer. Mais merci beaucoup d'être venu et nous avoir partagé un petit peu de votre vie. Fabien, merci beaucoup.
Plaisir, merci à vous, c'est très gentil.
Merci beaucoup.